Bonjour Guillaume Lebeau.
Bonjour.
Votre livre, c'est celui, comme son nom l'indique, d'un policier en colère, et c'est d'ailleurs également policier en colère le nom d'un mouvement dont vous êtes l'un des porte-parole, celui d'un policier qui aime son métier, mais qui a l'impression de ne plus pouvoir l'exercer convenablement. Le tableau que vous dressez est assez terrible, manque d'effectifs, manque de moyens, manque de reconnaissance. Quel écho a reçu votre livre dans le milieu de la police?
Le livre a été très bien perçu par l'ensemble de mes collègues. J'ai beaucoup de retours positifs des collègues et des femmes de collègues notamment, parce que dans le livre, je parle aussi de la vie de famille de policiers qui n'est pas évidente non plus. Et par contre, de la part de l'administration, d'après ce que j'ai compris, je dois m'attendre à une nouvelle convocation à l'IGPN, la
Ce
police
sera
des
pas la
polices.
première.
Ça sera la troisième normalement.
Ouais. Vous risquez des sanctions?
Oui, tout à fait. Ouais. Il y a un précédent cas d'une ancienne collègue qui a écrit un livre sur la police qui avait pris, à ma connaissance, entre 12 et 18 mois de suspension.
Oui. Alors je le disais, donc pour vous, le problème aujourd'hui, il est triple. Manque d'effectifs, manque d'équipement et manque de reconnaissance. Sur les effectifs, soyons concrets, que faudrait-il faire?
Sur les effectifs, depuis que je suis rentré dans la police nationale, par exemple au sein de mon commissariat, on a perdu entre 20 et 30% d'effectifs. Donc du coup, ce qui implique immédiatement des retombées pour les citoyens. C'est-à-dire que c'est pas que pour nous en fait qu'on lutte également, c'est aussi pour les citoyens, parce que 20% de policiers en moins, c'est une patrouille de police en moins. Et parfois, on doit mixer jusqu'à 3 communes pour pouvoir faire une seule patrouille de police pour 3 villes. Donc les délais d'intervention sont très rallongés.
Oui. L'idée qui revient régulièrement, qui est évoquée depuis des années par plusieurs responsables gouvernementaux, de vous alléger les tâches administratives pour que vous puissiez vous concentrer sur vos tâches de police, d'investigation, cette idée, elle donne des résultats, elle est mise en œuvre ou pas?
Le problème, c'est qu'on avait beaucoup d'annonces en ce sens lors du mouvement de police en colère l'an dernier. On a demandé justement à être allégé de certaines tâches indues, comme on appelait ça. On nous a donné en plus de nouvelles tâches depuis, c'est-à-dire qu'on a des nouveaux accords avec les prisons qui nous demandent de garder des détenus à l'hôpital. On transporte encore beaucoup de personnes gardées à vue à l'hôpital pour des examens. Donc ça fait perdre énormément de temps aux policiers de terrain tous les jours. On perd facilement 4 heures à l'hôpital sur une vacation de 8 heures.
Sur les équipements, quels sont les problèmes? Je crois que vous parlez de votre gilet pare-balles, par exemple, qui est théoriquement hors d'usage, mais que vous continuez de porter.
C'est ça. Il y a une inspection qui a été faite en début d'année sur mon gilet pare-balles, qui montre que le gilet pare-balles n'est plus efficace à 100% et qu'il faudrait le remplacer. Donc depuis le début d'année, j'attends personnellement mon nouveau gilet pare-balles. Mais hormis cela, on a aussi...
On vous dit oui, vous allez en avoir un nouveau.
C'est ça.
Mais
attendez,
vous
ne
le voyez pas arriver.
C'est ça. Ça fait 6 mois que j'attends le nouveau. Donc je patrouille toujours avec l'ancien. Et au niveau matériel, autre chose aussi, on a reçu du matériel antiterrorisme. Mais par contre, le véhicule qu'on nous a donné après coup n'est pas adapté à ce matériel. C'est-à-dire que on peut pas tout simplement mettre le matériel anti-attentat dans la voiture de police. Il ne rentre pas. Le coffre ne ferme plus après.
Le matériel anti-attentat, c'est-à-dire ce sont des armes?
Ce sont des armes, des équipements lourds qui nous permettent de nous protéger en même temps riposter.
Ouais, donc ça, vous n'êtes pas en mesure de le mettre dans votre véhicule.
Si on le met, le coffre ne ferme plus. Donc on doit entasser un peu à l'arrière sur les sièges, etc.
Et enfin, alors peut-être là, on est plus dans le domaine du sensible, mais la reconnaissance, de quoi vous parlez quand vous dites on manque de reconnaissance? Parce que du point de vue de l'opinion publique, la police est plutôt bien vue.
Oui.
La reconnaissance, alors, c'est du pouvoir politique.
En fait, le problème, c'est qu'on a 85% de la population qui soutient quand même la police, donc c'est une très bonne chose. Néanmoins, on a 15% qui, on peut dire, détestent la police. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on entend beaucoup ces 15% de personnes. Oui. Et quand ces 15% s'expriment, ce qu'on déplore, nous, c'est qu'il n'y a pas d'autorité publique derrière qui tape du poing sur la table et qui dit concrètement, voilà, regardez... sont des policiers, ils ont droit, comme tout le monde, à une présomption d'innocence, par exemple. Et on a l'impression d'être défendu par personne. Et concrètement, au quotidien, on a... Par exemple, depuis le début de l'année, j'ai 40 collègues qui ont mis fin à leur jour, depuis l'année 2017. Et on n'entend pas de réaction des pouvoirs publics.
Alors, sur ce qui est de la reconnaissance et du soutien, il y a un chapitre que vous évoquez, ce sont ce qu'on appelle les bavures. Et à cet égard, il y en a une assez récente qui vous a fait beaucoup de mal, c'est celle de l'affaire Théo, ce jeune homme dont le contrôle a mal tourné, on va dire, à Aulnay-sous-Bois. Vous avez l'impression, par exemple, sur cette affaire, vous dites qu'au fond, la présomption d'innocence ne vous bénéficie pas complètement.
Pas du tout. C'est-à-dire que... D'emblée, en fait, dans cette affaire, elle a pris des proportions tout de suite qui ont dépassé tout le monde, notamment la SAP, police, politique, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont venus se mêler de cette affaire sans vraiment savoir ce qui s'était réellement passé. C'est-à-dire que nous, dans la police, on n'est pas à demander à ce qu'une bavure soit masquée, c'est-à-dire que si la bavure, effectivement, il faut que les collègues soient sanctionnés, ça c'est pas un problème. On est tous, on reconnaît qu'il y a parfois des brebis galeuses dans nos rangs, c'est pas un souci. Le problème, c'est que, on aimerait d'abord qu'il y ait une enquête à charge, à décharge, et qu'on puisse bénéficier, comme tout le monde, de la présomption d'innocence. C'est-à-dire que dans l'affaire Théo, ce qui s'est passé également, ce qui est aussi regrettable, c'est que j'ai des collègues qui ont eu leur adresse personnelle publiée sur Internet, en disant, voilà, ce collègue est le policier qui a violé Théo, alors qu'il n'avait rien à voir avec l'histoire, il ne travaillait même pas dans ce secteur. Et donc, aller chez lui, le tuer, sa femme, ses enfants, quoi. Ça nous appelle au meurtre sur les réseaux sociaux.
Oui. Là, le gouvernement veut, pour aider la nouvelle police de proximité du quotidien, faire appel à des citoyens qui seraient en quelque sorte des auxiliaires de police. Est-ce que cette idée-là vous paraît intéressante ?
Nous, en fait, en ce qui concerne la police de sécurité du quotidien,
personnellement... Oui, j'ai dit proximité alors que c'est pas le terme, c'est sécurité du quotidien.
C'est ça. Mais nous, moi, personnellement, j'ai pas d'avis positif ou négatif là-dessus. C'est-à-dire que rapprocher la police des citoyens, effectivement, c'est une bonne idée. Néanmoins, on estime que, en fait, pour l'instant, les fondations de la police ne sont pas assez consolidées pour pouvoir rajouter autre chose par-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aimerait bien tout simplement faire la police pour laquelle on est employé, quoi.
Pour commencer, vous évoquez, Guillaume Lebeau, le poids de la religion dans votre livre, et pour dire les choses clairement, le poids de l'islam dans certains quartiers, notamment celui où vous travaillez, à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. À quelles difficultés cela vous confronte-t-il ?
Les difficultés, par exemple, un exemple tout bête, on interpelle une jeune fille mineure pour des violences, donc violences en réunion. Donc ça arrive régulièrement qu'on a des... Ça arrive qu'on ait des filles mineures, en fait, qui agressent d'autres personnes dans la ville. Ça arrive récemment, ça fait la une des journaux à Gennevilliers. Juste parce que la jeune fille portait un mini-short. Donc, ce qui est contraire à leur éthique, on va dire. Du coup, les jeunes filles ont décidé d'agresser cette femme. Et jusqu'au coma. Juste parce qu'elle portait un short et c'était pas compatible avec la religion de l'islam. Deuxièmement, on a aussi des jeunes filles, une fois ramenées au commissariat, dont les parents viennent nous voir et nous disent, voilà, clairement, je refuse que ma fille soit vue, auscultée par un médecin homme. Donc, appeler obligatoirement un médecin homme pour ausculter ma fille. Donc, c'est des problèmes au quotidien qui font que...
Ouais. Et vous dites même que derrière, je vous cite, hein, derrière l'omniprésence de la religion se profile l'ombre de la radicalisation. Ça, c'est un phénomène que vous voyez monter aujourd'hui dans les quartiers.
En fait, dans les quartiers, depuis les attentats, justement, il y a une bonne collaboration qui a été faite entre les BAC et les services de renseignement. C'est-à-dire que les services de renseignement nous contactent de plus en plus pour identifier des jeunes radicalisés. Vu qu'on a une bonne connaissance du terrain, on peut leur apporter des informations là-dessus. Et effectivement, on constate une augmentation de la radicalisation. Beaucoup de jeunes qui étaient dans la délinquance de base, qui... ont des tendances à se pencher un peu trop vers la religion extrémiste.
Vous avez le sentiment aujourd'hui de ne pas être entendu, aucune réponse à vos demandes de contact avec des membres du gouvernement, vous dites, y compris d'ailleurs depuis l'élection d'Emmanuel Macron ?
C'est ça, on pensait justement, on avait de l'espoir depuis l'élection de M. Macron, c'est-à-dire qu'on a écrit au nouveau gouvernement, et pour autant on n'a pas eu de réponse à nos demandes. Les seules réponses qu'on a actuellement, c'est des convocations à l'IGPN régulièrement.
Merci Guillaume Lebeau.
De rien.
Bonne journée.
Merci à vous.